Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité. A-A-U.
Rossila Boussano, qui est architecte, docteur en anthropologie, actuellement en post-doctorat au sein de l'IFAN, l'Institut fondamental de l'Afrique noire à Dakar, et tes travaux, Rossila, portent sur les mémoires esclavagistes et leur monumentalisation dans les contextes européens et africains.
Bonjour à tous. Je m'appelle Rossila Goussano et la communication que je propose a changé de titre entre la journée où je l'avais proposée à Amélie et aujourd'hui. Puisque cette communication est finalement intitulée « Mémoire de l'esclavage et monuments, une reconstitution du passé au service d'une forme de commémoration contemporaine par l'hyper-réalité ». Donc c'est un titre un petit peu long que je peut-être reformulerai à la fin de...
C'est bon ?
Ouais. À la fin de cette communication pour comprendre ce que signifie un peu tout ça. Alors, je vais juste me mettre un timer parce que... Je peux avoir une capacité à parler beaucoup et longtemps. Okay. Donc cette communication, elle est tirée de ma recherche doctorale dirigée par Emmanuel Chérel et Elisabeth Pasquier. Elle s'est déroulée de 2015 à 2020. Et elle portait plus généralement sur la spatialisation des mémoires de la traite négrière et de l'esclavage à Nantes, à Ouida, au Bénin et à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais la communication que je vais vous présenter aujourd'hui va plutôt être centrée sur la route de l'esclave de Ouida, ses architectures et puis ses logiques matérielles et architecturales de transmission du passé. Peut-être que la question globale serait quels sont les enjeux spatiaux, conceptuels et cognitifs des lieux de mémoire esclavagiste contemporains. Cette communication va me servir à parler donc, des formes de transmission et de monumentalisation contemporaine du passé négrier, à interroger les débats actuels qui portent sur la réécriture de l'histoire, et puis à interroger aussi la manière dont les enjeux économiques et touristiques traversent aujourd'hui ces questions. Alors, je commence par vous présenter une carte non exhaustive des lieux de mémoire et des musées qui ont progressivement pris place à la fin du XXe siècle, avec un essor dans les années 1980 et puis finalement un boom dans les années 90, lié à une réapparition de ces mémoires dans l'espace public. Il y a plusieurs facteurs, notamment aux questions de décolonisation des pays africains, aux luttes minoritaires, notamment aux États-Unis, au réinvestissement de discours nationaux en France, notamment par les Antillais et puis les populations ultramarines. Enfin, il y a une convergence de facteurs qui fait que dans les années 80, l'histoire et les mémoires de l'esclavage vont prendre place dans l'espace public et vont donner naissance à des musées et des lieux de mémoire. Alors, pour ce qui est des musées, il y a plusieurs recherches qui ont été réalisées sur le fait d'exposer l'esclavage. Des questions d'ordre muséographique et scénographique, mais aussi épistémologique et heuristique, à commencer par le rôle et la place de l'esclavisé dans le discours muséal. En 2013, par exemple, la revue Africulture va consacrer un numéro aux difficultés et aux limites que recouvrent les expositions consacrées à l'esclavage, avec des problématiques telles que comment restituer l'expérience esclavagiste depuis la position des victimes, à partir de quelles traces, quel objet, quel médium, comment mettre en scène la violence de l'esclavage et jusqu'où faire appel à la sensibilité des visiteurs. La convocation de nouveaux supports, voire de nouveaux objets, est-elle suffisante pour amener à construire de nouveaux imaginaires collectifs ? Sont-ils synonymes d'un renouvellement du regard ? Toute une série de questions qui vont amener à théoriser, à réfléchir et à débattre sur cette question de l'entrée au musée, de l'histoire de l'esclavage au musée, à tel point que Achille Mbembe, donc un chercheur congolais, va lui émettre l'idée assez radicale de ne jamais faire entrer au musée la figure de l'esclave, à la fois figure contradictoire de la violence extrême de l'humanité, mais aussi un symbole de lutte et de renversement de tout un système, donc une incapacité totale à entrer dans un lieu institutionnel, avec une histoire coloniale qu'est le musée. Ce que j'explique, c'est que ces questions qui ont eu lieu dans le cadre des musées ont été un peu moins portées sur la question des lieux de mémoire et des espaces mémoriels et urbains. Donc des questions qui porteraient sur les représentations, les esthétiques et les relations aux drames que proposent ces mémoriaux. Il y a effectivement eu beaucoup de réflexions sur les lieux de mémoire consacrés notamment à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont donné lieu notamment à pas mal de monographies. Mais en ce qui concerne les lieux de mémoire consacrés à l'histoire de l'esclavage, les questions sont un peu plus disparates, ou en tout cas les ouvrages sont un peu moins nombreux. Et donc une des questions que j'ai posées dans mon travail de recherche, c'est quelles sont les logiques matérielles et architecturales de transmission du passé négrier aujourd'hui ? Quels sont les enjeux spatiaux, conceptuels et cognitifs des lieux de mémoire contemporains, et je précise, liés à l'histoire et aux mémoires de l'esclavage ? Je voulais faire un bref rappel sur les enjeux mémoriels, mais je vois que ça fait déjà 5 minutes que je parle, alors que je suis qu'à l'introduction. Donc je vais juste rappeler que ce sont des enjeux didactiques, pédagogiques, esthétiques, mais aussi thérapeutiques. Et avec évidemment des formes esthétiques qui dépendent des cultures et des idéologies propres à chaque communauté et à chaque nation ou culture. Donc, je voulais vous en présenter deux. L'Arc of Return, qui a été inauguré sur l'esplanade de l'ONU à New York en 2015, et puis un autre mémorial qui a été réalisé à Grenade dans les eaux marines, donc qui se visite avec une bouteille d'apnée pour rappeler aussi le décès, ou en tout cas le fait que la mer soit un immense cimetière. Moi, je pars du terrain d'étude béninois, donc à Ouida, d'un chemin qui s'appelle la route de l'esclave de Ouida, qui a été inauguré en 93 par le gouvernement sur les 3 kilomètres qui vont du centre-ville à la plage. Alors, pour vous présenter un petit peu ce... Enfin, moi, je vais mettre une photo, une vidéo plutôt que j'ai... réalisé, mais alors dans des conditions, vous allez le voir, très proche, très amateur, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de mal au cœur. Mais moi, je vais vous décrire ce chemin. On se trouve dans la ville de Ouida, qui est un ancien comptoir de traite, qui d'où plus d'un million d'esclaves seraient partis. Et donc qui a été ensuite un comptoir colonial important. Et en 93, le gouvernement décide de mettre en place plusieurs sculptures le long de cette route qu'auraient emprunté les esclavisés afin de rejoindre les navires négriers. Donc on traverse un espace urbain d'abord très dense avant d'arriver en périphérie. Donc voilà, il y a des petits arrêts sur ces sculptures. Il y en a une vingtaine au total qui ont été mises en place et plusieurs étapes qui vont être davantage valorisée. La première étape que l'on a vue, c'est la place des enchères, qui est donc le lieu qui est censé rappeler la vente des esclavisés. Puis ce chemin, on a une deuxième étape qui s'appelle l'arbre de l'oubli. Donc ça serait le lieu autour duquel tourneraient les esclavisés pour oublier d'où ils venaient et oublier leurs racines. Et puis on va arriver sur un troisième lieu qui s'appelle la case d'Omaï, qui est donc le lieu d'enfermement des centaines de captifs en attendant l'arrivée des navires négriers, puisqu'ils étaient souvent troqués par plusieurs dizaines, voire centaines. Comme vous le voyez, ce sont des traces qui ont aujourd'hui complètement disparu. Et le rôle de ces sculptures, c'est donc de matérialiser ces mémoires-là, d'ancrer ces souvenirs dans des formes. Donc voilà, là, je descends de la petite moto pour voir la manière dont le gouvernement a choisi de matérialiser cette case. Donc un espace entièrement obscur pour habituer les esclaves à l'immobilisme et à l'obscurité des cales de navires, puisque la traversée entre le Bénin et les plantations esclavagistes en Amérique était à peu près de 2 mois. À la sortie de cette case, les esclaves qui étaient trop faibles pour réaliser cette traversée faites dans des conditions assez désastreuses, étaient jetés dans une fosse commune, c'est ce qu'on a vu, et ceux qui survivaient ou qu'on jugeait assez en forme pour prendre le navire tournaient autour d'un arbre, donc la vidéo est assez rapide, mais qui s'appelle l'arbre du retour, et donc on les faisait ingérer certaines choses, donc toujours dans cette capacité enfin, plutôt dans cette perception de la mort où on considère qu'en ingérant des choses, l'âme de ces défunts pourrait revenir sur le continent africain une fois décédés et retrouver la terre de leur origine. Et puis, on arrive à la dernière partie du chemin qui a été matérialisé et on va rejoindre l'océan Atlantique avec, vous allez voir, le seul monument tel que nous on le conçoit de cette route qui s'appelle la porte du non-retour et qui sert à évoquer donc ce départ sans retour des captifs, donc un monument construit a posteriori, voilà, qui reprend en plus des codes architecturaux plutôt occidentaux. On est face à un arc de un arc commémoratif qui était mis plutôt dans les entrées de ville à une certaine époque et qui servait plutôt à glorifier les départs, ou en tout cas à glorifier une mémoire héroïque plutôt qu'à être assimilée à une mémoire victimaire. Donc voilà très rapidement les cinq places, la place des enchères, l'arbre de l'oubli, la case d'Omaï, la fosse commune, l'arbre du retour et puis une vue un peu globale. Juste une analyse très très rapide de ces symboliques. On est face à trois symboliques différentes. Une symbolique minoritaire qui est celle des esclaves agenouillés et qui fait directement référence au calvaire ou en tout cas une figuration qui évoque la place victimaire qu'on commémore. Et puis deux autres typologies de sculptures. Une qui est davantage rattachée à une cosmogonie vaudou, donc la religion présente localement et qui sert à mettre en avant les héritages culturels entre les populations caribéennes et les populations locales béninoises. Et puis, un gros paradoxe, puisque la grande majorité des sculptures font hommage aux rois qui ont vendu les esclaves. Donc, on est face à une polysémie et face à un discours qui choque plutôt les visiteurs qui traversent ce territoire, et notamment les afro-descendants qui réalisent un travail de deuil en venant visiter ou en tout cas en venant parcourir ce territoire, sauf que les guides leur racontent davantage la gloire des rois qui ont réussi à capturer des esclavisés, à les vendre, etc. Voilà cette fameuse arc. Dans les années 93, on décide de faire plutôt un aménagement urbain en mettant en place ces sculptures-là et en laissant une grande importance à l'expression, à la perception des mémoires à travers le corps. Et donc, c'est c'est 3 km qui se parcourent principalement à pied. La plupart des visiteurs décident de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que les descendants... ou en tout cas les personnes qui s'associent comme étant des descendants d'esclaves le font pour éprouver corporellement une forme d'expérience ou en tout cas il y a une dimension ou une volonté de revivre par le corps ce territoire et de refaire cette marche sous le soleil qui est assez intéressante mais que je ne vais peut-être pas plus développer que ça. Si ce n'est pour dire que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on a tout un imaginaire, notamment lié à la présence de films aujourd'hui et de livres, qui permettent de se projeter dans ce qu'a pu être ce départ. Et puis, évidemment, il y a la place et l'oralité des guides qui a un rôle très important dans cette mise en ambiance, dans cette contextualisation du territoire. Donc, quelques photos des visites qui sont réalisées avec les guides. Voilà la dimension corporelle qui est aussi éprouvée par les populations locales qui, une fois par an, réinvestissent ce lieu-là en réalisant une marche des esclaves pour rendre public ce souvenir-là. Depuis 2016, ce site est en mutation lié à l'arrivée d'un nouveau président au Bénin. Donc, Patrice Talon est élu en 2016 et lance une énorme politique patrimoniale, culturelle et mémorielle au Bénin. Il appelle tout ce programme le nouveau départ et il mise donc la réhabilitation de plusieurs sites. Et là, je vais vous montrer une seconde vidéo qui est la vidéo promotionnelle à la fois de cette politique et puis de ce que va devenir ce territoire.
Le Bénin mise sur un patrimoine d'une valeur insoupçonnée pour faire du tourisme un véritable levier de développement économique et social. Patrimoine historique d'influence, patrimoine culturel d'exception, patrimoine naturel unique. Le gouvernement du Bénin veut révéler ce patrimoine au monde et faire du tourisme un levier majeur d'investissement et de développement en misant sur 6 projets phares. Les rois d'Abomey.
Il y a une présentation. C'est une vidéo qui a été présentée à l'arrivée à l'aéroport. Ils ont installé plein d'écrans pour que, à partir de 2018, n'importe quel visiteur qui arrive découvre ce panorama et puis ses engagements. Et là, ils présentent les 6 projets culturels. Et moi, je vais vous juste laisser apercevoir les projets qui sont en cours sur ce même site dont je viens de vous présenter une vidéo.
Prenons sa source à Abomey, la grande route de l'esclave trouve son dénouement à Ouida. Pendant plus de 3 siècles, Ouida, ville symbole de la traite négrière, a servi de port de départ vers les Amériques et les Antilles. Le projet veut rendre la lumière ôtée à ces millions d'hommes grâce à une requalification urbaine, à la réhabilitation du fort portugais qui sera le musée de la ville et à la reconstruction à l'identique des forts français et anglais qui abriteront un centre de création pour les diasporas et une reproduction à l'identique de la vie à l'époque de la traite négrière. Un parcours mémoriel revisité sera proposé avec respect et recueillement. Cette route de l'esclave, identifiée par une signalétique propre, conduira des forts portugais jusqu'à la plage en plusieurs étapes. La place aux enchères. L'arbre de l'oubli. Zomaï, la case de la perte de lumière et de repères. Le mémorial. L'arbre du retour. La lagune. L'ensemble de la marina. Puis, une promenade flottante sur la lagune s'ouvre aux visiteurs. Un large ponton en bois s'avance sur l'eau, sur la trace des esclaves. Une réplique d'un navire négrier proposera une scénographie immersive plongeant le visiteur dans l'atmosphère bouleversante d'une traversée à l'époque de la traite négrière. Le navire, comme un phare, rappelle à tous le passé sombre du littoral d'Afrique de l'Ouest. Les installations muséographiques proposées ancrent le récit dans le présent et le futur en mettant l'accent sur les nouvelles relations nouées entre les Africains et leurs descendants d'outre-Atlantique par-delà les océans. Comprenant des jardins, un centre artisanal et des espaces de détente dans un cadre exceptionnel face à l'océan. C'est la marina.
Donc voilà la vidéo de présentation de ce nouveau projet qui m'a évidemment beaucoup interrogée. Donc voilà, pour reprendre des phrases et les intentions du gouvernement, je cite donc le président du Bénin lors de la présentation du programme d'action du gouvernement. Nous allons matérialiser au Bénin, nous allons réinventer les reliques de l'esclavage parce que c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité. Et nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qui était l'esclavage il y a 200 ans. On va avoir la chair de poule quand on va rentrer dans ce territoire à Ouida qui va ressembler à ce que c'était, cette contrée il y a des siècles. On passe d'un aménagement urbain à une reconstitution historique d'un territoire qui se rapproche donc du concept d'hyper-réalité, donc le fait de transformer le présent pour le rendre plus vrai que nature, mais sans pouvoir distinguer quel était réellement son architecture originelle et finalement ce que ça génère le fait de retranscrire ou en tout cas de reproduire aujourd'hui. Alors, évidemment, le fait de recentrer sur la position de la victime est intéressant puisque ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est que auparavant c'était un territoire, peut-être que dans la traversée et dans le... la narration du territoire, on était sur l'expérience du départ, mais finalement, par l'oralité des guides, on était plutôt sur les rapts, les razzias, la capture, etc. Et donc là, il y a un recentrement vers le vécu des esclaves qui est fait parallèlement aux nouveaux récits, ou en tout cas aux nouveaux ouvrages sortis ces 10 dernières années qui mettent en scène, ou en tout cas qui permettent de... re-questionner un point de vue, ou en tout cas un récit réalisé plutôt par les esclaves, alors qu'avant on était plutôt dans une histoire des dominants, une histoire des chiffres, une histoire de la comptabilité. Et donc ça suit un petit peu ce mouvement littéraire-là. Ça suit également des nouvelles réflexions architecturales sur comment est-ce qu'on représente la mémoire, et donc avec une dissipation de monuments et plutôt une évocation par la cérémonie, par le spectacle. C'est ce que Pierre Nora appelle les composantes scénographiques et dramatiques, en expliquant que pour lui, aujourd'hui, la commémoration la plus fortement révélatrice de l'esprit du temps, c'est au Puy du Fou qu'il faudrait la chercher. Donc là, évidemment, j'emprunte les mots d'un chercheur français, mais c'est un peu l'idée, c'est le fait que les manières de commémorer se soient déplacées et qu'aujourd'hui on est plutôt dans une quête théâtralisée de l'histoire. Donc la transmission du passé joue sur sa propre capacité à être théâtralisée. Ces observations font écho au constat de Daniel Fabre. Selon lui, le temps de l'objectivation du passé et l'érudition de l'histoire ont laissé place à l'ostentation du document, aux représentations collectives, au déferlement d'images, aux monstrations commémoratives et à la reconstitution de monuments. Le passé se donne moins à lire, à comprendre, à dater entre des bornes historiques. Il faut désormais le voir, le toucher, le ressentir. Et en effet, l'un des premiers renversements qu'opère la mise en place d'un spectacle histoire, c'est de placer le visiteur non plus comme spectateur, mais comme acteur de cette scénographie, en éprouvant des émotions et des sensibilités in situ. Et donc, Jean-Luc Bougnol et Marilyn Crivello, dans les nouvelles représentations du passé, expliquent bien que depuis une trentaine d'années, on assiste, lié aux transformations d'ensemble des rapports au passé, une accentuation de ces fabrications. On est frappé par un investissement de plus en plus marqué vers un passé brut, dont l'évocation ne passe pas par l'intermédiaire de récits et de l'écriture, mais par l'intermédiaire de canaux plus matériels. Un passé fabriqué dont l'ordonnancement chronologique n'a que peu de choses à voir avec celui de l'historien, se situant plus du côté de la sensation que du récit, et suscitant davantage la participation émotionnelle que l'attente d'une analyse. Et moi, je me suis principalement concentrée sur la réapparition de ce navire négrier qui pose plusieurs questions, notamment la question de la réapparition des corps. Donc à l'intérieur, les seules présences humaines qui vont être matérialisées sont celles des esclavisés. Il n'y aura absolument pas de membres d'équipage ou de marins qui vont être mis en scène. En fait, ça va être des personnages en cire. Aussi la question de la réapparition de ces corps qui met en place la figure du survivant aujourd'hui et qui peut être interprétée aussi comme un peu un témoignage testimonial ou comme la preuve en tout cas de ces corps. C'est aussi une évocation aux restes humains qui commencent à réapparaître sur les côtes guadeloupéennes et donc à la réémergence de corps, enfin liée à l'érosion marine, comme c'était des personnes qui étaient enterrées pas dans des cimetières mais dans des territoires meubles. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs crânes, enfin, bon, des os qui réapparaissent sur les côtes, qui posent cette question-là, mais qui est aussi un procédé scénographique qui se fait de plus en plus. C'est ce qui a été choisi, notamment dans les lieux de mémoire du génocide rwandais, où il y a l'exposition de tous les crânes, notamment dans une des chapelles. Et donc, ça poursuit ce prolongement-là. L'effet escompté étant, bien évidemment, l'effroi, l'émotion, le choc, mais aussi la souffrance. Je me dépêche, je suis super en retard. Ce projet interroge ou en tout cas interpelle notamment les scientifiques béninois qui posent plusieurs questions. La première, c'est la question de la référence qui est posée. Donc on reconstruit à l'identique, mais à l'antique de qui, de quoi, de quelle époque, qu'est-ce que ça signifie à partir de quelles sources aussi, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de traces ou d'inventaire de cette reconstitution qui se fiche sur aucune année, finalement, que c'est un petit peu creux. L'autre question qui est posée par les spécialistes béninois, c'est le fait de transposer une expérience sensible et mémorielle en quelque chose peut-être de plus... peut-être de plus touristique et évidemment de plus presque ludique. Donc il y a cette question-là où ils s'attendent à ce que certains visiteurs viennent et le vivent un petit peu, non plus comme quelque chose de sensible, mais comme une forme de fascination. Ce que j'écrivais, passer de... qu'est-ce que signifie l'enjeu de passer de la sensibilisation à la fascination, de l'information à la théâtralisation, pardon, n'y a-t-il pas un risque de simplification de l'histoire qui provoque une pratique non culturelle des lieux de mémoire ? Une autre critique qui a été fortement adressée, c'est que ce fait de commémoration s'éloigne très fortement des pratiques locales commémoratives. Donc là, ce sont des photographies qui ont été prises lors d'une cérémonie organisée par une famille qui, elle, passe beaucoup plus par des gestes, des rituels, des cérémonies, et donc par de l'immatériel où on donne à boire et à manger aux défunts, aussi dans le but de s'attirer leur protection. Mais finalement, il y a moins cette nécessité d'avoir un lieu ou en tout cas un monument ou un espace formel. Et donc, finalement, cette question de pour qui se fait ce lieu de mémoire, les populations locales qui ont été les premières touchées, sont-elles finalement les premières ciblées ? Et puis, enfin, il y a la question de la disparition des traces. Donc, ce lieu de mémoire, tout ce chantier, notamment ce bateau, va prendre place au bord de la côte. Et finalement, les familles qui habitent sur ce territoire-là sont en grande partie les canotiers, donc les familles qui ont servi, qui ont été impliquées dans la traite négrière et qui servaient à passer la barre et à cheminer les esclaves depuis la côte jusqu'à les cales des navires négriers. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des lieux de mémoire hyper importantes, de mémoire, de récits. Il y a également des traces. Il reste quelques pirogues. Il y a aussi tout un tas de cérémonies qui se fait dans cet endroit parce qu'il est particulièrement marqué par ces mémoires-là. Et la destruction, donc là, c'est la carte de l'expropriation donc pour cause d'utilité publique. Donc la destruction de ces familles et de ces marques pose évidemment la question... ou en tout cas l'application d'une forme de concept de mémoricide et d'urbicide. Et je vais terminer avec cette dernière phrase de Vincent Véchamp qui demande, ou en tout cas qui met en avant la question des luttes spatiales qui recoupent évidemment les questions de reconnaissance mémorielle, et qui interprète la démolition comme un déni de mémoire pour ceux qui sont associés aux édifices démolis et aux espaces recyclés, négation et expropriation symbolique de certains groupes, dont la violence la plus inaperçue. Voilà.
Merci, Ossila. Quelqu'un veut prendre la parole ? Ah, l'objet.
Et moi, j'avais pas du tout entendu cette consigne, donc je suis venue sans.
Alors, si tu avais eu cette consigne.
Alors, quelle est la consigne ?
Alors, je sais pas. Est-ce que tu aurais en tête, pour le coup, un objet qui matérialiserait pour toi cette dimension sensible, critique, politique, pardon, des ambiances. Moi aussi, je l'ai lu très très rapidement la consigne, mais j'étais pas dans le. Peut-être tiré de ce que tu viens de nous dire.
Peut-être ouais, la question des ossements et de la place aujourd'hui ou de la résurgence des restes humains à la fois dans leur la question dont ils sont objectivés en même temps dans la tentative d'humanisation qu'on leur ramène. Je trouve ça assez fascinant, mais c'est parce que maintenant je suis partie sur un autre chantier de recherche où les ossements humains sont considérés comme des humains, donc il n'y a pas de restitution d'objets humains dans le milieu muséal. Et là, je trouve que c'est l'inverse. On essaye un peu de chosifier l'humain dans ces projets de reconstruction de bateaux, de navires négriers, en remettant des corps, en les faisant gémir. Voilà, il y aura toute une ambiance sonore. D'accord.
Alors, il faudra imaginer le voir sur le sable là-bas. Bon. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ?
Mathilde Giraud, postdoctorante à Ucresson. Merci, je dois dire que je suis très émue, vraiment, de cette présentation, parce que j'ai commencé à être très émue quand vous avez expliqué que sur le chemin où il y avait ces totems, on était à la gloire des rois et des qui avaient exporté. Et donc, vous nous avez présenté la critique mais des critiques qui sont essentiellement de nature scientifique sur le projet, mais est-ce qu'il y a aussi des critiques de nature morale et politique sur ce qui relève d'une forme d'instrumentalisation à des fins touristiques de la mémoire de l'esclavage. Enfin, je suis vraiment très très émue qu'on fasse la vidéo qui mélange le tourisme, la mémoire. Enfin, c'est un gros choc pour moi. Je ne sais pas si c'est partagé par d'autres, mais.
Alors, merci pour la question. Alors oui, effectivement, c'est un projet du gouvernement qui fait débat. Et en même temps, la parole est plus ou moins muselée parce que le président du Bénin, qui a été réélu l'année dernière, a complètement dissipé l'opposition. Il y a eu quelques journalistes qui ont été mis en prison. Donc au Bénin, on parle un petit peu de démocrature puisque... il a été élu par la voix des urnes et en même temps il y a gros changement et en même temps il y a une forme de musellement progressive de la parole. Donc il y a plusieurs critiques qui se font à la fois sur la méthode et sur le fond du projet. Alors les critiques qui se font sur la méthode, c'est la question de l'expulsion des populations où en fait ça fait débat parce qu'elles sont indemnisées en fonction du caractère bâti de leur maison. Or, comme il s'agit de populations plutôt précaires qui sont des pêcheurs et qu'en plus, la question de la propriété foncière est arrivée au Bénin pendant la colonisation avec une population non lettrée, il y en a beaucoup qui n'ont pas de titre foncier et en plus qui ont plutôt des maisons en paille, enfin pas en paille, mais en bois, en tout cas pas en ce qu'on appelle en dur, donc pas en béton. Et donc ces populations sont très peu à être indemnisées. Et en parallèle, le foncier est devenu très cher à Ouida, notamment puisqu'il y a plein de familles qui commencent à acheter parce qu'ils se rendent compte que ça va être un lieu touristique qui va emmener un certain nombre de personnes. Donc voilà, il y a des grosses critiques qui sont faites sur le démembrement de ces familles. Il y a une vraie reconnaissance de la dimension immatérielle de cette mémoire. Donc comment est-ce qu'on effectue, ça se fait par des cérémonies de transfert. En fait, quand une concession familiale est délocalisée, il y a des cérémonies de transfert qui coûtent très cher parce que ça se fait en achetant aussi des bêtes, etc. Donc ce sont des populations de pêcheurs qui vont... ceux qui sont indemnisés vont se retrouver avec un terrain à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte. Et donc eux, ce qu'ils expliquent, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on sait seulement pêcher, on nous redonne... C'est ce qu'ils disent, on nous enlève la parc pour nous donner la houe, donc pour travailler la terre, mais on ne sait pas le faire. Donc il y a des critiques sur les formes du projet, et après il y a effectivement des critiques sur le fond même du projet. Le problème, c'est que les experts scientifiques sont aussi ceux qui ont été mobilisés pour être le comité scientifique de ces projets. Un peu coincés. Enfin, soit ils se sont retirés, soit ils ont osé élever la voix. Mais en fait, c'est vraiment un projet présidentiel. Donc le président Talon est présent pendant la plupart des réunions. Et il dit, non, mais moi, je ne veux pas entendre parler de vos critiques. Les quelques comités scientifiques qui se sont élevés ont été dissolus en 2019, fin 2019. Donc ils ont pu un petit peu parler, mais par exemple moi j'ai toujours pas rendu public ma thèse parce que c'est trop compliqué pour ces personnes-là. Et donc les critiques qui sont adressées à ce projet, c'est le phénomène de ce qu'ils appellent eux Walt Disneyisation de Ouida. Donc comment est-ce que ça va devenir en fait qu'un parc attractif avec une marina, la culture vaudou qui est très présente et qui va être mise dans une arène, donc avec une totale folklorisation d'un patrimoine local. Donc les cérémonies répondent à des critères, à des jours. Il faut aller voir un fa, donc un bokonon, qui dit qu'on peut le faire à telle cérémonie tel jour. Et là, le fait de mettre une arène et de le calquer sur des jours de visite, pour eux, c'est aussi complètement absurde. Et puis après, c'est l'intérêt propédeutique et puis même thérapeutique d'un navire négrier où en fait le gouvernement est pris dans une concurrence mémorielle face au Ghana et au Sénégal qui captent cette flux touristique-là. Et l'idée, c'est de sortir de la maison des esclaves de Gorée et des forts négriers et d'avoir un autre objet qui n'existe pour le moment nulle part. Et donc de faire revivre ce navire négrier et de jouer sur le choc et l'effroi. Mais qui est aussi attendu, hein, quand j'en parle à des visiteurs afro-brésiliens, il y en a certains qui me disent « Ah, c'est génial !» Et puis c'est tout le débat sur les mémoires, c'est ce qu'on on travaille sur l'imaginaire et sur la capacité de chacun à imaginer ce qu'il est en capacité d'imaginer, ou est-ce qu'on frappe fort. Et par exemple, les Antillais me disaient « Non, mais c'est une histoire qui est tellement violente que pour moi, il faut cet objet-là pour être en mesure de, bah, de réaliser la, la violence que ça a été. Donc ça fait débat, mais il y a aussi des personnes qui sont plutôt pour ce projet.
Merci Roussila. Je pense qu'on a épuisé notre temps de parole pour l'instant. Donc je vous prie de m'excuser pour le... Mais tu nous as...